Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manirakiza à la présentation de cette édition du lundi 29 novembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Amnistie générale pour les rebelles et opposants au Tchad. Burkina Faso, au moins 4 soldats tués lors d'une attaque dans le nord contre un détachement militaire assolé. En RDC, 22 civils tués dans une nouvelle attaque contre un camp de déplacés en Ituri. Le variant Omicron, hautement sensible, exige une action urgente, d'après les ministres de la Santé des pays du G7. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La junte militaire au pouvoir au Tchad a décrété lundi une amnistie générale pour les rebelles et opposants condamnés, notamment pour délits d'opinion, terrorisme ou atteinte à l'intégrité de l'État. Cette mesure concerne 296 personnes, selon un compte-rendu du Conseil des ministres. Les précisions avec Rosine Mounezer.
Cette mesure concerne 296 personnes condamnées, qu'elles soient ou non détenues, et répond à l'une des exigences des principaux groupes rebelles pour venir à la table des négociations à l'invitation du chef de la junte, Mahamat Idriss Déby Itno. Il est apparu indispensable de faire table rase des vestiges hérités des périodes sombres de notre pays en accordant une amnistie générale à ceux qui, pour une raison ou une autre, avaient choisi la voie de l'exil ou de la violence pour exprimer leurs divergences politiques, proclame la loi adoptée en Conseil des ministres. Les principaux groupes rebelles tchadiens se sont dit début novembre disposés à participer au dialogue national sous certaines conditions, dont l'amnistie générale. Mahamat Idriss Déby multiplie les signes d'ouverture aux groupes armés pour les amener à participer à un dialogue national censé réconcilier les Tchadiens avant des élections libres et transparentes promises dans 18 mois, renouvelables une fois.
Au Burkina, un détachement de l'armée visé par une attaque dans le nord, près de la frontière malienne dimanche. Au moins 4 soldats ont été tués et plusieurs blessés. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon une source sécuritaire, dimanche matin, aux environs de 5h GMT local, le détachement militaire de Solé a été attaqué par des individus armés. Plusieurs terroristes, environ une dizaine, ont été neutralisés lors de la riposte, a ajouté cette source, évoquant un soutien aérien et une opération de ratissage. Une source sécuritaire a confirmé l'attaque, précisant qu'un civil avait également été touché. Cette attaque est la troisième en 2 semaines contre les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Le 21 novembre, au moins 9 gendarmes et une dizaine de civils ont été tués à Foubé lors d'une attaque attribuée à des djihadistes. Le 14 novembre, au moins 57 personnes, dont 53 gendarmes, ont été massacrées dans un assaut contre un détachement de gendarmerie à Inata, toujours dans le nord du pays. Une situation qui provoque la colère des populations. Samedi, une dizaine de personnes ont été blessées à Ouagadougou lors d'incidents qui ont suivi la dispersion de manifestants dénonçant l'incapacité du pouvoir du président Roch Marc Christian Kabore à endiguer la violence djihadiste.
Les autorités de l'état de Zamfara dans le nord-ouest du Niger y ont rétabli lundi les réseaux mobiles coupés depuis près de 3 mois dans le cadre de la lutte contre le banditisme. Cette mesure visait à perturber la coordination entre les gangs criminels, nommés localement bandits, qui mettent cette région du pays à feu et à sang. Toujours au Niger, le président Mohamed Bazoum a procédé au changement de son ministre de l'Intérieur, 2 jours après une manifestation contre le passage d'un convoi militaire français à Terra, dans l'ouest du pays, qui a fait 2 morts, selon un communiqué lu à la radio publique. En RDC, 22 civils ont été tués hier dans une attaque contre un camp de déplacés en Ituri, dans le nord-est. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Mambo Bapou Mansé, coordonnateur de la Croix-Rouge de Djougou en Ituri, accuse les miliciens du groupe coopératif pour le développement du Congo, UKDECO, d'être responsables de cette attaque. Le porte-parole de l'armée dans la région, le lieutenant Jules Ngongo, affirme que les assaillants Kodoko ont été repoussés. Dans une autre attaque dans la nuit de samedi à dimanche, 5 civils ont été tués dans le territoire d'Irumu et 4 autres civils en périphérie de Bounia, chef-lieu de l'Ituri, a déclaré Isaac Nyakouklida, un responsable de la société civile d'Irumu. Cette attaque intervient moins d'une semaine après un assaut similaire qui avait fait 29 morts parmi les déplacés du camp de Drodro, voisin de celui d'Ivo. Depuis le mois de mai, l'Ituri et la province voisine du Nord Kivu sont sous état de siège. Les autorités civiles ont été remplacées par des officiers de l'armée et de la police.
Toujours en RDC, le président Félix Tshisekedi a autorisé l'armée ougandaise à traverser la frontière pour combattre les rebelles du groupe Force démocratique alliée ADF, a-t-on appris dimanche auprès de la présidence congolaise. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont placées depuis mai sous état de siège. Les autorités civiles ont été remplacées par des officiers de l'armée et de la police. Nous y reviendrons en page magazine. En Centrafrique, Bouba Ali Hassan, ancien conseiller du président Faustin Archange Touadéra et actuel ministre de l'élevage et de la santé animale, a reçu l'ordre national du mérite par le président de la République, selon un décret lu lundi à la radio nationale. Accusé de crimes de guerre et contre l'humanité, Ali Hassan avait été arrêté le 19 novembre à son ministère sur ordre de la Cour pénale spéciale. Il a été exfiltré de prison quelques jours plus tard par des gendarmes. L'Éthiopie a nié avoir mené au cours du week-end une attaque dans une région frontalière disputée avec le Soudan, blâmant les rebelles tigréens. Samedi soir, l'armée soudanaise a annoncé la mort de plusieurs de ses soldats dans la région fertile d'Al-Fashaga, objet d'un litige entre Addis Abeba et Khartoum. Un porte-parole du gouvernement éthiopien, Legesse Tulu, a qualifié dimanche ces déclarations de sans fondement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nouveau variant Omicron du coronavirus présente un risque très élevé au niveau mondial, a prévenu ce lundi l'Organisation mondiale de la santé. Le G7 tient une réunion d'urgence à Londres. Plusieurs pays suspendent des voyages pour éviter les contaminations. Le point avec Nanit Talani.
Aucun décès associé au variant Omicron n'a été rapporté, souligne l'OMS, indiquant que la probabilité que le variant se répande au niveau mondial est élevée. De nombreuses incertitudes planent sur ses dangers et sa transmissibilité. Les scientifiques redoutent que le variant Omicron soit extrêmement contagieux et échappe à certaines parties du système immunitaire. Plusieurs pays occidentaux et africains sont déjà fermés aux voyageurs venant de 8 pays d'Afrique australe. Les États-Unis se placent en état d'alerte avancée, bien qu'aucun cas n'a encore été confirmé. L'Afrique du Sud, où Omicron a été détecté et annoncé jeudi dernier, s'attend à une hausse exponentielle des contaminations. Mais Pretoria juge triste et regrettable que des pays africains suivent le vent de panique et imposent des restrictions de voyage. Il demande l'annulation immédiate des restrictions que le président Cyril Ramaphosa juge dépourvues de justification scientifique. Les ministres de la Santé du G7 se retrouvent en urgence à Londres pour discuter de la situation.
Le président chinois Xi Jinping a promis lundi 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique sous la forme de dons ou de soutien à la production locale afin de combler le vide vaccinal accusé par le continent. Le président chinois a fait cette annonce à distance lors d'un forum de coopération sino-africaine organisé en dehors de Dakar alors que les pays africains s'emploient à relancer leurs économies durement touchées par la pandémie. La France souhaite un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur l'immigration illégale dans la Manche après le naufrage qui a coûté la vie à 27 migrants, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le Premier ministre Jean Castex écrirait mardi à son homologue Boris Johnson pour lui proposer un accord. Monsieur Darmanin a assuré qu'il n'y aurait pas de remise en cause des accords du Touquet sur la frontière franco-britannique. Les négociations pour sauver l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien ont repris lundi à Vienne après 5 mois d'interruption, selon un tweet du porte-parole de la délégation de l'Union européenne à Vienne. Ce texte offrait à Téhéran la levée d'une partie des sanctions étouffant son économie en échange d'une réduction drastique de son programme nucléaire placé sous un strict contrôle de l'ONU, mais il s'est peu à peu dilité après la décision en 2018 des États-Unis de s'en retirer. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Claire Morin-Gibourg.
Les arrivées touristiques en Afrique ont baissé de 74% au troisième trimestre 2021 par rapport à 2019, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme. L'Afrique est la troisième région où cette baisse est la plus forte après l'Asie-Pacifique avec moins 95% et le Moyen-Orient avec moins 81%. D'après l'OMT, le secteur mondial du tourisme pourrait encore perdre 2000 milliards de dollars cette année malgré les campagnes de vaccination. En Côte d'Ivoire, chaque habitant d'Abidjan produit plus de 280 kilos d'ordures par an, a affirmé Modeste Guy Dogbo, conseiller du gouverneur du district autonome d'Abidjan, à l'ouverture d'AfriWaste 2021, conférence sur la gestion durable des déchets. La valorisation des déchets secs et organiques pourrait générer un gain de plusieurs centaines de francs CFA par an. Les prix du pétrole sont remontés fortement ce lundi à l'orée d'une semaine qui s'annonce mouvementée entre évaluation de la demande, négociations sur le nucléaire iranien et réunion de l'OPEP+, après leur lourde chute de vendredi due à la détection d'un nouveau variant Omicron.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La FIFA a nommé ce lundi des comités de normalisation pour chapeauter les fédérations guinéennes et tchadiennes de football et organiser des élections à leur tête, annonce l'instance dans un communiqué. Cette mise sous tutelle du football guinéen qui prendra fin au plus tard le 30 juin 2022 est venue de plusieurs irrégularités dans la procédure électorale de sa fédération, indique la FIFA sans plus de précision. Selon l'instance mondiale, le futur comité de normalisation dont les membres seront désigné dès que possible par la FIFA et la CAF devra expédier les affaires courantes et superviser l'élection du futur comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Pour la Fédération tchadienne suspendue par la FIFA en avril en raison d'ingérence gouvernementale puis rétablie mi-octobre, il s'agit aussi d'élire un nouveau comité exécutif, mais la commission de normalisation dont le mandat s'achèvera au plus tard le 15 novembre 2022 devra définir les relations de la Fédération avec le ministère des Sports. Ce dernier avait dissous la fédération et s'était emparé de ses locaux en début d'année avant d'en rendre le contrôle au président de la Fédération tchadienne de football, Mokhtar Mahamoud. Toujours sur le continent, on jouait les barrages allés de la Coupe de la Confédération. La SEC d'Abidjan et Heart of Oak d'Accra ont assuré à domicile 2-0 face respectivement à l'Inter Club d'Angola et la JS Saoura d'Algérie. Même score en faveur des Nigériens de la Gendarmerie nationale qui recevaient les Congolais du Daring Club Motoma Pembe. Le stade malien de Bamako a battu Al Ahly de Tripoli 1-0 au stade Modibo Keïta de Bamako. Pour le coach du club malien, Jean Gratekap, c'est un bon départ.
Une victoire très difficile, mais une victoire quand même. On n'a pas encaissé de but, c'est une bonne chose. 1-0, je pense que c'est un bon résultat. Je vous dirai si c'est un résultat suffisant dans une semaine.
De son côté, Bernard Simondi, coach dans la Ligue de Tripoli, pense que la qualification est toujours possible.
C'est dommage. Cependant, on n'a pas complètement ôté nos chances de qualification. Je pense qu'on a des arguments à faire valoir au match retour. Et j'espère que nous serons en mesure de le faire.
Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Défaite par contre pour l'autre club malien, Binga, qui s'est incliné devant les Zambiens de Zanaco, vainqueur 3-0. Journée difficile pour les clubs congolais, Maniema Union battue et victoire étriquée pour le tout-puissant Mazembe. Le club de Kindu s'incline à domicile 1-0 devant les Égyptiens de Pyramide. Quant aux Corbeaux de Lubumbashi, ils ont réalisé le service minimum chez eux face aux Sud-Africains de Marumo Galante 1-0. Pour Robert Kidiaba, coach des gardiens du TP Mazembe, il faut vite oublier ce match aller et aller chercher la qualification en Afrique du Sud.
Je demanderai à tous les fanatiques de Mazembe d'être calme et de nous soutenir. Maintenant là, on se concentre pour le match retour.
Robert Kidiaba au micro de Lucien Kaouzi Patrick Kassondé, notre correspondant Swahili à Lubumbashi.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le forum Afrique-Chine s'est ouvert dimanche à Dakar et se tiendra jusqu'à demain mardi. Les rencontres sont centrées sur les relations commerciales et les enjeux sécuritaires. Ce forum intervient dans un contexte de rivalité croissante entre Pékin et Washington. Le point avec Dili Diko.
La Chine est le plus important partenaire commercial du continent africain. Les échanges directs pré-pandémie ayant atteint plus de 200 milliards de dollars selon l'ambassade chinoise à Dakar. C'est dans ce contexte de coopération économique accrue que le président Macky Sall a pris la parole ce matin lors du sommet Afrique-Chine pour mettre en avant un approfondissement de ses relations.
Dans le cadre des nouvelles routes de la soie, du programme de développement des infrastructures en Afrique et de la zone de libre-échange continental, un large potentiel s'offre au partenariat sino-africain en matière de projets d'infrastructures structurantes.
S'exprimant devant la presse à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aissata Tall Sall, a plaidé en faveur d'un accompagnement chinois dans la lutte contre l'insécurité au Sahel.
Dans notre coopération au Sahel, nous voudrions que la voix de la Chine, compte tenu de son influence, soit une voix forte pour soutenir le Sénégal et tous les pays engagés dans le problème de l'insécurité au Sahel pour que nos forces qui y sont aient beaucoup plus encore de moyens juridiques pour pouvoir combattre contre le terrorisme et contre l'irrédentisme. Et nous souhaitons que la Chine nous accompagne.
En amont du sommet, de nombreux Sénégalais se sont dit favorables à un accroissement de la coopération entre Pékin et Dakar.
Le soir qu'on a porté sur le Sénégal, ça montre que le Sénégal, voilà quoi. Elle a une très bonne coopération avec la Chine. Et surtout, le Sénégal, c'est un pays stable, il y a la paix, il y a tout. Et ça, c'est une bonne soir quoi. Et j'espère bien que ce sera quelque chose qui va nous apporter beaucoup de choses, quoi, Inch'Allah.
La coopération Chine et Sénégal, c'est très important. Parce que toutes les infrastructures qui sont ici chez Chine qui la font, là, même le stade amitié là, hein, avec beaucoup de trucs, c'est la Chine qui a construit ça. Ce n'est pas les Blancs qui l'ont construit, hein. C'est les Chinois. Les Chinois, ils viennent avec leur équipe et ils le font. Tu vois.
Papis Colli, un expert des relations sino-africaines, espère que ce sommet donnera lieu à plus de coopération en matière de santé.
On a vu que c'est la coopération chinoise qui a construit le stade amitié. Bon, le pôle urbain de Djamnyadio, beaucoup de trucs sont en train d'être faits là-bas. Et je crois que aussi, avec cette coopération, la Chine peut aussi aider le Sénégal à élever son plateau médical.
Pour aider l'Afrique dans la riposte Covid-19, le président chinois Xi Jinping a promis ce lundi 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid sous forme de dons ou de soutien à la production locale.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine. Zoom sur les relations Chine-Afrique avec en toile de fond la participation d'investisseurs chinois et du continent au forum de coopération Chine-Afrique à Dakar. Pékin promet une nouvelle ère dans un partenariat basé sur l'égalité. Les Africains, eux, appellent à une relation moins centrée sur la dette et qui profite à leurs économies. Comment la Chine s'est-elle imposée comme un partenaire incontournable de l'Afrique? Comment le continent peut-il tirer son épingle du jeu dans cette relation? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Une annonce officielle des autorités congolaises est attendue sur l'envoi très prochainement des troupes ougandaises en RDC pour combattre les rebelles ADF. Le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, soutient dans un tweet que pareille décision serait inadmissible et que les mêmes erreurs produiraient les mêmes effets. Eddie Isango a joint à Kinshasa un député de Beni qui soutient la décision, Grégoire Kiro.
L'ADF, c'est une rébellion originaire de l'Ouganda. Ils ont commis beaucoup d'exactions en Ouganda. Après ça, ils sont venus chez nous en RDC depuis des décennies. Et là, depuis plus de 7 ans, ils commettent des massacres indescriptibles. On est à plusieurs milliers de morts dans la région de Beni. Ils se sont même déportés maintenant sur l'Ituri. Nous avons essayé de les combattre par tous nos moyens avec notre armée, les FRDC. Et force est de constater que les résultats sont plutôt mitigés parce qu'après tout ce qu'il y a eu comme opération là-bas, en tout cas la paix n'est pas revenue. Donc il est tout à fait normal que les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni, donc respectivement de la RDC et de l'Ouganda, se mettent d'accord pour mutualiser les forces pour lutter contre cette nébuleuse ADF qui ne commet que beaucoup de dégâts chez nous. Voilà, donc je vois pas où est le problème. Donc à mon sens, c'est une façon de pouvoir en finir avec les ADF parce que l'armée ougandaise a déjà montré ses capacités. C'est une armée aguerrie. Par ailleurs, il faut dire que nous, comme élus du Grand Nord Kivu et de l'Ituri, nous avions été contactés par les autorités à ce sujet il y a quelques mois et nous n'avions trouvé aucun inconvénient à ce que l'armée ougandaise vienne épauler les FRDC dans la lutte contre les ADF. Évidemment, sous certaines conditions, ils ne vont pas venir comme un terrain conquis. Il y a des conditions que nous avons posées pour qu'ils viennent intervenir. Donc voilà, c'est ça que je peux dire à ce niveau.
L'armée ougandaise est accusée d'avoir commis par le passé des dégâts, des tueries sur le sol congolais. Et le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, a même tweeté disant que c'était inadmissible d'autoriser les retours de cette armée sur les sols congolais parce que les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. Qu'en pensez-vous? D'ailleurs, à ce sujet, l'armée ougandaise a été condamnée au niveau de la Cour internationale de la justice pour tous ces dégâts commis sur les sols congolais.
Il est facile de faire des tweets pour dénoncer ceci ou cela, mais il est mieux de proposer des solutions parce que l'armée ougandaise est disponible. Elle peut intervenir à tout moment, immédiatement. Bon, étant entendu que nous sommes tous d'accord que les FRDC connaissent des problèmes et ne sont pas capables de ramener la paix à elles seules au jour d'aujourd'hui et qu'il nous faut absolument trouver l'appui d'une autre armée. Maintenant, qu'est-ce que le docteur Denis Mukwege propose? C'est bien de dire, voilà, pas l'Ouganda, mais ok, il propose quoi? Parce qu'entre-temps, nos compatriotes sont en train de périr là-bas, tous les jours.
Grégoire Kiro, député de Beni, joint à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma, en RDC, sur 96.2 FM.
Au Gabon, Paulette Missambo, élue le 13 novembre à la tête du parti d'opposition Union Nationale pour succéder à Zachary Miboto, est la première femme à diriger un grand parti politique gabonais. Surnommée la Dame de Fer, elle s'est fixée comme objectif d'augmenter la présence des femmes et des jeunes au sein du parti et sur les listes électorales en vue des élections générales de 2023. Jointe par Nathalie Barge, Madame Paulette Missambo explique la nouvelle stratégie de son parti.
Au dernier congrès, nous avons apporté une modification. Au lieu d'avoir un mouvement des femmes, un mouvement de la jeunesse, nous avons intégré comme secrétaire exécutif adjoint une femme, donc qui serait chargée des questions de la femme, et un jeune qui serait chargé des questions de la jeunesse, pour permettre à chaque groupe de participer pleinement à l'activité du parti, à la marche du parti, et de participer au débat à l'intérieur du parti.
Alors justement, voilà. Donc il faut courtiser la jeunesse, il faut courtiser les femmes. Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour ça?
Oui, la stratégie, c'est la formation citoyenne. Et nous l'avons commencé, mais il faut l'amplifier. Former les femmes et les jeunes à la citoyenneté, parce qu'ils doivent pouvoir prendre en charge, être conscients de leurs problèmes, être présents là où les décisions se prennent. Donc, il faut les former à la citoyenneté, de sorte qu'au moment des élections générales, s'ils sont attendus en 2023, nous ayons plus de femmes candidates dans les communes, dans les départements, de façon qu'elles puissent poser les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien sur l'éducation de leurs enfants, sur le panier de la ménagère, qu'elles soient vraiment présentes. Et les jeunes aussi, qu'ils ne soient plus des porteurs de valises ou de faire des remplissages dans les meetings, mais que ce soit des jeunes conscients de leurs responsabilités, de leur place dans le chantier politique et dans la résolution des problèmes du quotidien. Et nous allons organiser des ateliers de formation et de sensibiliser sur ces questions-là. Nous allons aussi faire en sorte qu'au moment de la confection des listes des candidats, que nous puissions mettre des femmes et des jeunes en position d'éligibilité sur ces listes. C'est très important. Si on peut arriver à la parité, c'est très bien. Mais si on peut déjà obtenir un nombre significatif de femmes ou de jeunes sur les listes, nous allons encourager les organes du parti à favoriser, créer les conditions pour qu'il y ait plus de femmes et de jeunes sur nos listes de candidature.
Madame Missambo, est-ce que vous-même vous communiquez beaucoup avec d'autres femmes qui ont déjà un statut assez élevé au niveau de la politique dans d'autres pays en Afrique?
Oui, je suis membre fondatrice du Forum des éducatrices africaines qui a inclus maintenant dans son programme la sensibilisation des femmes à la politique. Notre objectif premier était de faciliter, de promouvoir l'accessibilité des filles à l'école et la formation des femmes. Et puis, depuis 2 ans, il y a un programme de promotion de l'intégration des femmes dans les instances politiques. Donc maintenant, au-delà de l'accessibilité à l'école, il y a aussi l'intéressement des filles et des femmes à la chose politique.
Paulette Missambo est présidente de l'Union nationale au Gabon. Retrouvez l'interview intégrale dans le monde féminin sur voafrique.com. Le nouveau variant du coronavirus Omicron continue de se propager dans le monde. Le conseiller principal en santé du président américain Joe Biden, Anthony Fauci, a déclaré qu'il semble être plus transmissible que d'autres souches, mais les experts sont dans l'impossibilité de dire à ce stade quel est le taux d'incidence et la gravité de la maladie. Un reportage d'Arash Arabassadi, relaté par Nathalie Barge.
Quelques jours après que les autorités sanitaires sud-africaines ont annoncé la découverte de la dernière mutation du coronavirus, désormais connue sous le nom d'Omicron, les voyageurs se disent déçus par les nouvelles restrictions dans plusieurs pays. Lizette Boys, une voyageuse à Johannesburg.
Après avoir été bloqué pendant 2 ans à cause du coronavirus et ne pas avoir vu votre famille, mes parents étaient vraiment très malades, vous savez. Alors j'ai dû revenir quand les frontières étaient ouvertes pour venir les voir. Et maintenant, vous réalisez que ça recommence.
Plusieurs pays ont interdit ou réduit les voyages en provenance des pays d'Afrique australe. Lors d'une vidéoconférence, le ministre sud-africain de la Santé, Joe Bata, a qualifié les restrictions de voyage de prématurées.
La réaction de certains pays en termes d'imposition d'interdiction de voyager et de telles mesures sont totalement contraires aux normes et standards recommandés par l'Organisation mondiale de la santé.
Dimanche, le conseiller médical en chef du président américain, Anthony Fauci, a déclaré sur la chaîne ABC que les restrictions de voyage n'arrêteraient pas la propagation du virus, mais qu'elles permettraient de gagner du temps pour agir.
Utilisez le temps que vous gagnez pour combler les lacunes et en attendant, vous apprenez plus sur le virus. Vous apprenez quelle est la réaction avec les anticorps induits par les vaccins et surtout, vous utilisez ce temps pour vraiment mettre la pédale au plancher et faire vacciner et booster les gens. Cela va nous donner du temps pour améliorer notre préparation.
Le docteur Fauci a félicité les autorités sud-africaines pour leur transparence dans l'identification et le partage des détails du variant Omicron. Il a précisé que les responsables de la santé américains et sud-africains prévoyaient de se réunir à nouveau dimanche.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagno et Lionel Manila Gahima. Eric Manilakiza a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Agréable soirée à vous tous. À la prochaine.